Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Salvé, François-Louis-Marie et Ricardo Baroni. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du rugby avec les demi-finales du top 14, du football avec la Coupe du Monde des clubs et du cyclisme avec la présentation du Tour de France. Après une page de pub, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons, comme d'habitude, par les coups de cœur de nos invités. Bruno Salvé, on va commencer avec vous et avec le rugby. C'était ce week-end les demi-finales du top 14. Au vu des résultats, pas de surprise. C'est les deux premiers de la saison régulière qui sont en finale. Mais si on creuse un peu, on aurait pu avoir des surprises, même si les scores paraissent un peu larges. On va commencer par Toulouse, samedi matin, qui s'est imposé face à Bayonne, 32-25.
Oui, un match assez rugueux face à des Bayonnais dont c'était là depuis 22 ans, la première qui n'était pas revenue à ce niveau-là de la compétition. Donc très, très, très motivé. Et un stade toulousain qui a balbutié quelque peu son rugby avec, en commettant pas mal d'erreurs, notamment au niveau des transmissions, au niveau de la, qu'on appelle la fluidité dont on avait l'habitude de cette équipe. Et je pense qu'il y a beaucoup un état de fatigue des joueurs toulousains qui ont été beaucoup sollicités cette année, notamment en équipe de France. Et ça risque de peser dans la balance de la finale.
De la finale. Oui. Bon, on l'a vu, des Bayonnais extrêmement vaillants quand même, qui auront fait une belle saison, hein, qui termineront invaincus chez eux.
Qui aurait dit en début de saison que Bayonne jouerait une demi-finale, alors que habituellement on les entend en train de se battre pour ne pas être relégués. Donc c'est vrai que c'est vraiment une très très belle saison pour Bayonne, et je pense que ça va se poursuivre. Ils vont quand même changer de manager puisque c'est Laurent Travers qui va venir prendre la direction du club. Donc on va voir ce que ça peut donner, mais c'est vrai que Bayonne a vraiment été quatrième depuis quand même le milieu de la saison, donc affirme vraiment son statut d'outsider et de, pourquoi pas, de prétendre à beaucoup mieux la saison prochaine.
Alors, est-ce qu'ils seront justement capables de maintenir cet état de résultat, on va dire, l'année prochaine, avec un peu de remaniement quand même, vous avez dit, dans le staff, un peu dans les joueurs aussi, il y a Camille Lopez qui va arrêter, notamment, oui, pour ne citer que lui.
Oui, mais après, je pense qu'il va y avoir, au niveau du recrutement, je pense qu'il va y avoir quand même un recrutement assez cohérent du staff bayonnais pour permettre à cette équipe d'être aussi performante. Après, on le sait tous, que ce soit en rugby ou comme en football, après, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, il faut aussi avoir les moyens financiers pour pouvoir recruter des bons joueurs. Et les bons joueurs, il faut les payer. Donc, voilà, ce sera dépendant aussi du secteur économique de cette équipe. Et quand on sait que la ville de Bayonne n'est pas économiquement une ville très, très riche, donc ça dépendra de pas mal de facteurs.
Bon, on va revenir à Toulouse. Vous l'avez dit, solide, mais pas hyper rassurant malgré tout. On a connu. Alors, on a tellement été habitué à voir Toulouse survoler ses matchs et survoler le championnat que dès que la machine s'enraye un peu, si j'ose dire, on fait les difficiles.
On fait les difficiles. C'est vrai qu'ils nous ont habitués à beaucoup mieux, mais est-ce que Toulouse, la question qu'on peut se poser, est-ce que Toulouse n'est pas comme l'équipe de France, entre guillemets, Dupont dépendante ? Parce qu'on se rend compte que quand on n'a plus Antoine Dupont dans son effectif, quand même, ça pénalise quand même pas mal l'équipe. Et la charnière, donc Graou, Ntamack, alors que Dupont, Ntamack, ils jouent en club, ils jouent en équipe de France, donc
ils se trouvent les yeux fermés.
Là, avec Graou, Ntamack, c'est un peu plus compliqué au niveau de la liaison. Et puis, je trouve vraiment que les avants, qui ont beaucoup été sollicités cette année, hein, quand on passe que la première ligne marche. Bail, Méafou, Flamand, on fait toute la saison avec l'équipe de France. Cross en troisième ligne, Jelonge, c'est lui à la limite qui est le plus en forme parce qu'il a le moins joué. Roumat qui est blessé.
Il y a un certain pour la finale.
Donc, ça, c'est des joueurs qui ont énormément donné pour l'équipe de France et qui, malheureusement, en fin de saison. Sont un peu à la ramasse pour terminer la saison, et ce qui est dommageable pour le club toulousain.
Alors, dans l'autre demi-finale, l'UBB s'est imposé face à Toulon, 39-24. Alors, le score pourrait laisser paraître que c'était assez facile, mais en fait, deux essais bien sentis au moment où il y a eu un carton jaune pour Toulon.
Oui, et puis, l'UBB qui vraiment est impressionnant, maîtrise totalement son rugby. Champion d'Europe cette année, donc c'est vraiment la saison de l'UBB avec une ligne de trois quarts de top niveau, puisqu'on a quand même Jalibert. Alors, contrairement à Toulouse, par contre, la charnière Lucu-Jalibert joue les yeux fermés, et tous les deux sont en pleine forme, donc ça accélère le jeu, ça joue très bien. Jalibert est vraiment, je pense, à la meilleure forme de sa carrière pour l'instant, puisqu'il est, il a énormément de réussite. Et ne serait-ce que la passe au pied qu'il fait sur Penaud est un bijou de précision et surtout de prise de décision dans un temps très court. Donc c'est vraiment l'équipe qui est en pleine bourre, si on peut dire ça comme ça, et avec une gestion très intelligente de Yannick Bru de son effectif, puisque il a réussi ce qu'il n'avait pas réussi l'année dernière. Je pense que là il a recruté l'équipe qu'il fallait, avec des bonnes doublures à chaque poste. Et même s'il n'y a pas beaucoup d'internationaux français, il y a quand même énormément d'internationaux argentins, d'autres pays. Donc c'est une équipe qui va être redoutable pour ce titre et puis pour cette finale.
Et qui bénéficie du facteur confiance, le fameux facteur confiance. 5 essais malgré tout sur ces demi-finales, sans Bielbarré.
Bielbarré qui sera présent à la finale, voilà, alors qu'il était, il était absent pour cette demi-finale. Et puis surtout, on a tous en tête le score de la finale.
Le score fleuve de la finale de l'an dernier.
59-3. Le Stade Toulousain avait passé quand même 59 points à 3 à l'UBB. Et je pense que cette année, ça ne va pas être la même.
Ils vont avoir une grosse envie de revanche.
Ça ne va pas être la même histoire. Et puis surtout, l'équipe est prête. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que ces équipes sont affrontées 3 fois cette saison. 2 fois en top 14.
Fois en Coupe d'Europe.
Et une fois en Coupe d'Europe, notamment. Donc l'UBB a à chaque fois remporté ses matchs en top 14. Et en demi-finale de la Coupe d'Europe aussi a sorti le Stade Toulousain sur le score de 35-18. Excusez du peu. Donc vraiment, le facteur confiance est du côté de l'UBB. Ouais.
Un petit mot sur Maxime Lamotte. Talonneur, auteur d'un triplé sur cette demi-finale.
Bah, c'est super.
C'est inédit.
Inédit qu'un talonneur marque 3 essais. Déjà qu'un joueur marque 3 essais sur un match, mais en plus un talonneur. Après, un talonneur, dans le jeu, on peut le considérer comme un 4e, 3e ligne. C'est-à-dire qu'il est assez mobile, il peut se déplacer, il prend beaucoup d'initiatives. Et voilà, donc Lamotte qui est toujours dans l'antichambre de l'équipe de France. Et je pense que sur ces matchs-là, il a gagné énormément de points pour la suite de sa carrière. Et donc, oui, une très belle prestation de Maxime Lamotte. Qui est un très très bon joueur.
Bon, vous l'avez dit, hein, ça sera la revanche de la finale de l'an dernier avec probablement un score très différent. On va voir si l'UBB est en capacité de faire le fameux doublé.
Je pense que ce que je disais tout à l'heure, au niveau facteur confiance, ils sont prêts. Les Toulousains doutent, mais bon, après, Toulouse est quand même une grande équipe. On sait que dans ces moments-là, elle sait se transcender aussi. Mais bon, si j'avais une petite pièce à mettre, je la mettrais sur l'UBB cette année.
Le temps passe vite. Un petit mot sur l'équipe de France A, qui s'est imposée 26-24 à Twickenham sur un essai de Romain Taoufi-Fenoua.
Ça fait toujours plaisir de battre nos meilleurs ennemis que sont les Anglais, et en plus à Twickenham, chez eux. Mais c'est vrai que c'était deux équipes d'Angleterre et l'équipe de France qui étaient remaniées, puisqu'avec pas mal de nouveaux joueurs, puisque les joueurs étaient la plupart sollicités par les phases finales. Et donc ça a permis à Fabien Galthié et à son staff de faire une revue d'effectifs en prévision de la tournée en Nouvelle-Zélande, puisque dès mardi, il annoncera le groupe qui s'envolera pour la Nouvelle-Zélande avec 3 tests contre les All Blacks.
Donc, les 5, 12 et 19 juillet.
C'est ça. Là, ça ne va pas être de la tarte, on va dire, avec les All Blacks revanchards, puisque les 3 derniers matchs France-All Blacks, ce sont les Français qui l'ont remporté. Et là, les All Blacks sont vraiment vexés que les Français ne viennent pas avec la grosse équipe de France, puisqu'ils n'ont même pas programmé un match à l'Eden Park. Ils ont décentralisé le troisième test, donc le test décisif en cas d'égalité ou de parité sur les 2 premiers matchs, à Hamilton. Donc, une équipe All Black revancharde avec les All Black au top, puisque ce sont 2 équipes néo-zélandaises qui étaient aussi en finale de Super Rugby, les Crusaders et les Chiefs. Donc voilà, ça va être vraiment une opposition très très difficile pour nos jeunes bleus, puisque Fabien Galthié et son staff ne pourront pas s'appuyer sur les joueurs de la finale, que les joueurs premium normalement devraient être mis au repos vu la saison éprouvante qu'ils ont déjà eue. Ça sert à rien d'avoir un peu plus de casse. Alors il y en a déjà suffisamment.
Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt et on attend la composition de cette équipe de France dès mardi pour voir qui s'envolera vers la Nouvelle-Zélande.
Mais sur ce match quand même Angleterre-France, il y a eu vraiment de très belles prestations et des joueurs qui se sont révélés, qui ont, je pense, gagné leur place pour cette tournée. Donc avec notamment Le Garay qui a été vraiment très très bon, à Tissokbe qu'on connaissait déjà en équipe de France, et puis de nouveaux joueurs donc qui apparaissent, donc c'est vraiment de bon augure pour la suite de l'équipe de France.
Bon, et bien on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On va passer au football maintenant, François Lumaria avec vous, et cette fameuse Coupe du Monde des clubs qui bat son plein aux États-Unis. Avec des matchs quand même pas mal de... Alors pas partout, mais pas mal de spectateurs dans l'ensemble pour voir en tout cas les clubs européens. On arrive bientôt à la fin des phases de poule, encore une bonne partie de cette semaine, je crois. Et puis, on va faire un point sur l'ensemble des groupes. Le PSG s'est fait surprendre la semaine dernière par Botafogo, vendredi, 1-0. Alors avec des stats, où tout...
Paris a dominé, largement.
17 tirs, je crois, cadrés contre 3 à Botafogo. Mais c'est Botafogo qui l'a emporté. Donc Paris jouera sa qualif demain matin contre Seattle. Pendant que Botafogo et l'Atlético Madrid joueront. Alors Botafogo est déjà qualifié, donc la qualif va se jouer entre Paris et l'Atlético Madrid.
Botafogo n'est pas encore qualifié.
Je crois que si,
terminer à 6 points. Non, ils peuvent tous terminer à 6 points.
Oui, mais dans
et
la
si l'un a battu l'autre, Botafogo a battu Paris.
Paris a battu l'Atlético.
Et si l'Atlético bat Botafogo,
ça sera
au glavrage individuel. Et comme ils sont à égalité, ça va se jouer ensuite à d'autres critères qui vont aller jusqu'au fair play.
Autrement dit, il faut que Paris en mette une bonne à Seattle.
Voilà,
et que pour ça, il faut aussi que l'Atlético Madrid batte Botafogo, ce qui est loin d'être fait sur ce qu'on a vu depuis.
On est d'accord.
On fait le tour de la revue d'effectifs de tous ces groupes. Dans le groupe A, on a l'Inter Miami et Palmeiras qui devraient se qualifier de première place, normalement.
L'Inter vient d'avoir un nouvel entraîneur. Donc, comme toutes les équipes européennes, hein, c'est difficile pour elles parce qu'elles ont eu un championnat très très long. Et là, elles doivent jouer à des horaires pas possibles, sous une chaleur
accablante.
35-36 degrés. Je pense que le corps médical de chaque équipe et les préparateurs physiques doivent travailler de symbiose pour pouvoir mettre ces équipes-là d'aplomb.
Dans le groupe B, on vient d'en parler, le Botafogo, le PSG, l'Atlético Madrid, on ne revient pas dessus. Dans le groupe C, on a le Bayern et Benfica qui devraient se qualifier, mais Boca a encore une chance, Boca Junior.
Boca a une chance, mais le Bayern était au-dessus.
Et au-dessus.
Ils sont arrivés en forme au bon moment, mais il faut arriver en forme à la fin, pas en forme dans la phase de groupe. Benfica est surprenant quand même. Le foot portugais surprend de plus en plus, avec un Di Maria qui est toujours présent à près de 40 ans. Et Boca Junior, on connaît les Argentins, ils vont jouer le coup à fond jusqu'au bout.
Alors, petit aparté, vous parliez de Di Maria et donc des un peu moins jeunes. On a vu Thiago Silva exceller, on a vu Sergio Ramos exceller aussi sur les premières journées.
Oui.
Les vieux, entre guillemets, sont en forme.
Les vieux sont en forme parce qu'ils savent gérer leur corps, et ils savent faire les sacrifices qu'il faut, et ils savent que la monture ne peut pas suivre le même rythme que les autres, et ils arrivent à se gérer sur leur hygiène de vie, ça c'est important.
Dans le groupe D, on a Flamengo et Chelsea qui devraient se qualifier, même si Chelsea s'est fait une petite frayeur en perdant un de ses deux premiers matchs.
Oui, j'ai trouvé Chelsea un peu léger, comme dans le championnat anglais, hein, même s'ils sont arrivés au bout d'une Coupe d'Europe. Mais ils étaient un peu légers sur leur championnat. Et là aussi, sur leur match, je ne les ai pas trouvés dominants, contrairement à Palmeiras. Mais les clubs brésiliens sont bien placés dans tout leur groupe. Il faut attendre les phases éliminatoires. Hein. Là, en phase de groupe, c'est bien plus facile. Phase de qualification directe, ça va être autre chose.
Allez, on continue sur cette revue d'effectifs avec le groupe E cette fois-ci. Et donc l'Inter Milan et River Plate qui devraient se qualifier. Mais comme ils s'affrontent lors de cette dernière journée, ça pourrait bénéficier à Monterrey, le club mexicain, qui pourrait terminer à la deuxième place.
Effectivement, sur ce groupe-là, d'ailleurs le football mexicain monte en puissance. Hein, quand même pas mal de joueurs européens qui vont jouer maintenant dans le championnat mexicain. Alors, est-ce que c'est le niveau? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le climat? Je sais pas, mais le niveau du championnat mexicain est en train de monter de gamme. Et Monterrey pourrait jouer...
Les troubles fêtes
dans ce groupe-là.
Bon, on va suivre ça avec le groupe F. Ensuite, on a Fluminense et Dortmund qui devraient se qualifier normalement.
Fluminense et Dortmund, là aussi, ce sont deux équipes qui vont se qualifier, mais je ne les ai pas trouvées transcendantes non plus. Fluminense a toujours été sur le fil du rasoir et Dortmund est en reconstruction. Ils ont perdu des joueurs, comme chaque année. Ils achètent de jeunes joueurs pour les revendre plus cher. Et ils sont en reconstruction, et cette Coupe du Monde-là, c'est déjà pour préparer la saison prochaine.
Alors, dans le groupe G, c'est un des rares groupes où tout est joué. La Juve et Manchester City sont déjà qualifiés. Reste à déterminer qui terminera premier de ce groupe, mais les deux équipes européennes sont qualifiées.
Je trouve que la Juve s'en sort bien, pas mal. Hein,
avec un Kolo Muani en pleine forme.
Et ton joueur Kolo Muani, tu le gardes ou tu le gardes pas? Parce que là, pour l'instant, est-ce qu'il revient à la maison? Est-ce qu'il reste à la Juve? Parce que les clubs anglais sont dessus et ils vont faire monter les enchères. Je pense qu'il va rester à la Juventus.
Eh bien, on va suivre ça aussi avec beaucoup d'intérêt. On rentrera dans la phase des transferts un peu après, même si ça a déjà commencé. Et le dernier groupe, le groupe H, avec le Real Madrid, qui devrait se qualifier. La deuxième place devrait jouer entre Salzbourg et Al Hilal, le nouveau club de Simone Inzaghi.
Bien, Al Hilal surprend. Hein. De toute façon, les clubs d'Arabie Saoudite sont assez surprenants. Hein. Ils sont en train de mettre une politique en place. D'abord une politique de star, mais ils sont en train aussi de mettre en place une politique de développement avec pas mal d'académies dans chaque club. Et ils sont pas ridicules. Hein. Ils sont vraiment pas ridicules. Le Real Madrid là va s'en sortir, mais difficilement. Aujourd'hui, ils ont pris un carton rouge. Ils s'en sortent quand même. C'est pas encore le grand Real Madrid, mais ils sont là dans les phases finales.
Alors, on aura une finale le 14 juillet. Hein, les phases finales vont s'étaler pour les huitièmes de finale du 1er au 2 juillet, puis ensuite le 5 et le 6 pour les quarts de finale, le 9 et le 10 pour les demi-finales et le 14 pour la finale. Ça veut dire aussi une préparation tardive, au moins pour le PSG, si on se concentre sur le club français, reprise de la Ligue 1 le 17 août, première journée de Ligue 1 le 17 août.
Alors,
ça veut dire quelle préparation? Quel
exactement.
Type de préparation?
Est-ce que tu les laisses en vacances? Parce qu'il leur faudrait 3 semaines pour récupérer cette saison-là. Est-ce que tu les laisses? C'est pour ça que je t'ai dit que le staff médical et les préparateurs physiques devront travailler de symbiose. Tu les laisses 3 semaines en vacances, en congé, pour les reprendre après? Ils reprennent quand? Comme je disais tout à l'heure, la saison reprend beaucoup plus tôt. Puisque oui. L'année prochaine, il y a encore une Coupe du Monde. Les organismes seront à rude épreuve et je peux te dire que les kinés, le staff médical auront fort à faire.
Alors, on a déjà vu que certaines équipes européennes, dont le PSG, faisaient vraiment souffler les joueurs avec un entraînement minimum, basé vraiment sur la récup, le côté vacances avec la famille, etc., même s'ils prennent la compétition sérieux. On voit que Luis Enrique, avec ses préparateurs, a décidé quand même de lâcher du lest un petit peu, même s'ils veulent la gagner.
C'est ce qu'on voit avec Paris Saint-Germain.
Pour pouvoir démarrer rapidement le championnat et être performant tout de suite.
Il est dans le management, mais vraiment un management où il tient compte de ce côté humain. Être loin de sa famille, dans des compétitions comme celle-là, il fait venir les familles. Il sait très bien que les garçons, sur le plan psychologique, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de tension toute l'année. Et les maintenir encore dans un hôtel entraînement, il fait venir les familles, ça va marcher ou pas. Mais n'empêche qu'il tient compte des joueurs.
Voilà, bon, on va suivre la fin de cette compétition aussi avec beaucoup d'intérêt. On va probablement avoir des matchs très intéressants en quart de finale avec des confrontations entre équipes européennes et on va voir ce que ça pourra donner. On va passer au cyclisme et on va commencer à parler du Tour de France avec vous, Ricardo Baroni, qui s'élancera le 5 juillet de Lille. Pas de départ à l'étranger pour une fois, ça fait quelques années que ce n'est pas arrivé.
Oui, c'est vrai, c'est bien. C'est très bien pour les Français qui adorent le Tour de France, de voir un départ dans le nord de la France. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative.
Alors, au programme de cette, si on regarde un tout petit peu le parcours, les Alpes, les Pyrénées, le Mont d'Or, un parcours pour les grimpeurs ou pas pour les grimpeurs?
Ben, il y a pas mal de contre-la-montre. C'est vrai que moi, je pense pas que le parcours va influencer le résultat final. Je pense plutôt que ça va être des jeux d'équipe. On a pu voir ça au Dauphiné Libéré où les équipes sont très très importantes dans cette stratégie. Il faut savoir que ça dure 3 semaines. 3 semaines où il y a très peu d'étapes de repos. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit dans les étapes de montagne que ça va se jouer. Ils vont plutôt gérer parce que quand il y a beaucoup de difficultés, ben, les coureurs qui visent le classement général hésitent à se lâcher dans ces grandes étapes de montagne.
Alors, les favoris pour vous, est-ce que Pogacar et Vingegaard sont les seuls ou est-ce que vous en voyez d'autres?
Non, j'en vois d'autres. Oui, on voit d'autres. On va dire, on en voit d'autres pour faire plaisir à ceux qui sont, par exemple, les Belges, pour Remco Evenepoel ou pour l'autre Slovène qui est Roglic. Mais je pense que ça va se jouer entre les deux. Maintenant, pour ces deux coureurs, l'équipe est très, très importante. On a pu voir qu'au niveau stratégie des équipes, sur le Dauphiné, ils ont essayé, l'équipe Visma, Lisebike, d'influencer Pogacar, de lui créer de la difficulté dans les descentes. Il n'a jamais pu faire ce Dauphiné en toute tranquillité. Pogacar n'avait pas son équipe numéro 1 au Dauphiné libéré, mais il s'est quand même assez bien, je dirais, débrouillé. On a eu cette nuit une étape fantastique avec un Français et un coureur de cette équipe qui est João d'Almeida, désolé pour les Portugais, contre le Français Vauclin qui nous a montré que lui, son équipier a gagné le Tour de Suisse et il va être son équipier sur le Tour de France et je pense que ça va compter dans le déroulé de ce Tour de France.
Alors, on a énuméré les favoris, les outsiders. Est-ce que du coup, puisque vous avez mis Evenepoel, éventuellement Roglic dans les favoris, il reste qui dans les outsiders ?
Ben, il reste quand même Enric Mas, l'Espagnol. Il y a aussi Félix Gall, l'Autrichien, qui a fait un super Tour de France. Tour de France, Tour de Suisse. Il y a aussi le Danois, Skjell Mose, qui vient de gagner une course en Andorre et qui est le seul à avoir battu Pogacar au sprint devant Pogacar et Remco Evenepoel. Donc je pense qu'il va y avoir du suspense sur ce Tour de France. En tout cas, on l'espère que ça ne se passe pas comme au Dauphiné, où il y a eu un suspense pendant un certain moment, mais qu'on avait sincèrement l'impression que Tadej Pogacar gérait le résultat final, quoi.
Bon, et les coureurs français dans tout ça ?
Ah, les coureurs français, ben, comme j'en parlais tout à l'heure, Kevin Vauclin nous a fait un super Tour de Suisse, hein, où il termine deuxième, donc ça peut être une révélation pour ce Tour de France. Maintenant, ça dépend si on veut parler des révélations françaises pour des étapes ou pour le classement général. Pour le classement général, je vois ça assez compliqué. L'unique, je pense, ça aurait été possible, mais il a dit qu'il ne visait pas le classement général, c'est Lenny Martinez, qui a gagné une très belle étape au Dauphiné libéré et qui est capable de rivaliser avec les meilleurs du monde dans la montagne. Après, on a toujours David Godu, mais David Godu, j'espère, hein, puisqu'une année, il a fait quatrième du Tour de France, j'espère qu'il puisse rivaliser pour le classement général, mais j'y crois pas spécialement. Je vois plutôt les Français sur les étapes. Sur les étapes, là, il y en a plusieurs. Hein, sur les étapes au sprint ou sur les étapes avec des échappées, on a toujours notre Julien Alaphilippe, qu'il faut pas oublier, qui a fait aussi un super Tour de Suisse, puisqu'il termine, je crois, cinquième du Tour de Suisse. Donc, moi, je pense que on va le revoir, il a changé d'équipe, il est dans une nouvelle équipe suisse, donc moi j'espère qu'on puisse voir un beau Julien Alaphilippe ou un Warren Barguil aussi. Ça dépend de comment va être géré ce tour. Si Pogacar ou Vingegaard veut gagner des étapes, eh ben, il ne reste plus grand-chose pour les autres, quoi.
Alors on a une arrivée sur la 16e étape au Mont Ventoux, assez mythique. Comment vous imaginez cette étape, même si elle arrive tardivement et que la course sera peut-être déjà un peu cadenassée?
Ah, je ne pense pas que la course soit cadenassée, hein, puisqu'en parlant de parcours, on sait que le Mont Ventoux, il se passe toujours quelque chose, quoi. C'est jamais une montée classique pour la simple raison qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de protection, il n'y a rien du tout. La montée, c'est sous le soleil et on a eu des étapes mythiques dans le Mont Ventoux qui étaient des étapes, par exemple, de Pantani avec Lance Armstrong, ce genre d'étapes. Donc, moi, je ne suis pas convaincu que ça soit joué pour le Mont Ventoux. Et en plus, sur un palmarès, de dire « j'ai gagné en sommet du Mont Ventoux », c'est quand même quelque chose d'important. Donc, non, je pense que les coureurs qui visent le classement général vont viser cette étape. Surtout si quelqu'un au classement général se rend compte qu'il ne peut pas gagner le Tour de France, il va dire ben, autant viser l'étape, quoi.
Alors, dans ce qui m'a surpris un petit peu dans ce parcours, il y a un contre-la-montre de 10,9 km qui est la montée à Peyragudes, mais qui arrive en deuxième semaine, assez tard finalement, sur une si petite distance. Quel est l'intérêt ou la particularité de ce type d'étape en contre-la-montre à peine 11 km ?
Ben, on a pu voir cette nuit avec le contre-la-montre du Tour de Suisse qu'il y a des écarts qui peuvent se créer hein, dans un contre-la-montre en côte. Donc, ça va être très intéressant. Beaucoup de spécialistes disent que c'est un Tour de France dessiné pour Jonas Vingegaard. C'est vrai que ça pourrait nous redonner un peu de suspense, puisqu'on a pu voir dans le contre-la-montre du Dauphiné que Tadej Pogacar s'est fait battre par Jonas. Donc on peut imaginer qu'une course de côte comme ça, contre la montre, ça puisse remélanger les cartes et nous redonner un peu de suspense.
Même sur une si petite distance ?
Ah, mais 10 km, vu la pente,
c'est 650 mètres de dénivelé positif.
Voilà.
Sur 10 km. Sur 11 km.
Ça va être, je pense, très, très sélectif. Et puis, on a pu le voir que des fois, c'est pas spécialement la pente hein, qui fait, c'est la récupération. Vous parliez tout à l'heure de la Coupe du Monde des clubs. C'est la récupération sur un Tour de France, surtout s'il fait très chaud, puisqu'on a déjà annoncé des canicules en France. S'il fait très chaud, la récupération, ça va être important. Et sur un contre-la-montre, on peut pas tricher, hein, on peut pas se cacher. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis au mieux à peu près du Tour de France. Mais quand on parle de parcours, je voudrais quand même citer quelque chose qui me surprend. C'est la dernière étape du Tour de France de cette année, qui va se dérouler sur le parcours des JO de 2024. Ça veut dire qu'habituellement, le Tour de France ou le Tour d'Italie, la dernière étape, c'est où on invite toutes les familles, où on va dire c'est un petit peu la fête et on laisse la place aux sprinteurs. En mettant une étape comme ça le dernier jour à Paris, qui est une étape quand même assez sélective, ben, je me demande s'il va y avoir beaucoup de sprinteurs qui auront envie de terminer le Tour de France. Ça, je trouve un peu dommage. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu un super spectacle au JO sur le parcours.
Notamment dans la montée de Montmartre.
La montée de Montmartre. Donc, si moi, je devais aller à Paris, je ferais partie de ces gens-là d'aller dans Montmartre pour voir. Mais pour les coureurs, c'est pas une course d'un jour comme les JO. C'est une course qui dure 3 semaines. Le dernier jour, ils espèrent, ben non, le dernier jour, il va falloir être là. Et j'espère qu'il ne va pas y avoir des petits écarts, comme on a pu voir un Laurent Fignon qui a perdu le Tour de France pour quelques secondes.
Sur un contre-la-montre il y a quelques années. Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, Ricardo. Et d'ici là, il y a encore les championnats nationaux le week-end prochain, c'est ça ?
Oui, ce week-end, il y a les championnats nationaux de tous les pays. Et peut-être qu'il y a des coureurs qui ne font pas partie de la sélection de leur équipe et qui feront partie du Tour de France parce que... Je ne sais pas, un champion de France sur le Tour de France, ça fait toujours plaisir à voir, ou un champion d'Italie ou du Danemark. Donc peut-être qu'il va y avoir des changements la semaine prochaine après ces championnats.
Bon, eh bien, on va suivre ça aussi avec beaucoup d'intérêt en attendant le départ de cette grande boucle. Et d'ici là, on va tourner une page de pub.
RRB, la pub.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Besoin de vacances ? Envolez-vous avec le cabinet d'assurance AssurePac. Gagnez un séjour pour deux au Vanuatu, vol aller-retour plus 3 nuits avec petit déjeuner. Pour jouer, rendez-vous dans l'une de nos 3 agences avant le 30 juillet, BD Pêcheur, Pacific Arcade ou VKP. Et ce n'est pas tout. Repartez aussi avec une remise sur votre prochain contrat d'assurance. Alors, prêt à tenter votre chance ? Plus d'infos Facebook, AssurePac NC.
RRB, il est 17h34. On retrouve tout de suite la suite d'une semaine sportive avec Olivier Ledain et ses invités.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
De retour dans Sportmédable et on va commenter les brefs de cette semaine. Et la première, c'est du football. François Loumary, c'est pour vous. Paul Pogba qui, a priori, va s'engager avec l'AS Monaco.
Sceptique.
Ça vous inspire quoi ?
Sceptique, parce que ça fait des années qu'il n'a pas joué. On ne sait pas à quel niveau il est. Sur le plan médical, pareil. Est-ce qu'il va retrouver son niveau ? Ça va être très difficile. Il faut qu'il ait un préparateur physique spécifique depuis 3 ans. Dans quel état il sera ? J'attends de voir.
Bon, Ricardo Baroni ?
Ma question, c'est est-ce qu'il retourne dans une équipe française pour jouer à nouveau dans l'équipe de France ?
Je pense qu'il y a de cela, parce qu'il est quand même très proche de Didier Deschamps. C'était un des leaders de l'équipe de France de Didier Deschamps. Didier Deschamps étant sur, certainement sur la fin, il va certainement l'appeler s'il performe, parce qu'il faut qu'il performe. S'il performe, il va certainement l'appeler pour cette prochaine Coupe du Monde, parce qu'au-delà d'être performant sur le terrain, c'est aussi un leader hors du terrain et dans le vestiaire, donc ça ne m'étonnerait pas. Mais l'équipe de France a beaucoup de joueurs en foot.
Et il y a une saison à passer avant de faire ses preuves pour éventuellement être rappelé en équipe de France.
Il faut qu'il soit performant avec Monaco, surtout que Monaco est en Ligue des Champions, hein, donc il faudra qu'il performe.
C'est aussi le moyen de se montrer. On va passer au tennis de table avec une défaite malheureusement pour Félix Lebrun en finale du World Tennis Table de Ljubljana. Bon, ça reste une finale malgré tout, mais malheureusement une défaite. Mais il est quand même régulièrement au plus haut niveau dans ces compétitions, demi-finale, finale, hyper rarement avant. Messieurs, ça vous inspire quoi, Bruno ?
Mais pour un jeune joueur comme ça, comme lui, donc c'est encourageant parce que c'est comme vous le disiez, il est constant dans la performance, il arrive à chaque fois en finale ou en demi-finale, donc c'est encourageant, c'est un jeune en devenir et je pense que ce sera un futur très grand champion.
On va changer de raquette et on va passer au tennis avec Carlos Alcaraz qui continue un peu sa radia. Il a encore gagné le tournoi du Queens ce week-end contre le Tchèque Jiří Leška. Est-ce qu'il peut réaliser le doublé encore Roland-Garros Wimbledon comme l'année dernière, Ricardo Baroni?
J'espère que non, que Sinner soit présent.
Je savais bien que j'aurais cette réponse en vous posant cette question. Néanmoins, il reste quand même vraiment impressionnant. Hein. Il a été bousculé toute la semaine, mais il a été solide. Il a perdu quelques sets en route, mais il est là.
Il fera partie des favoris, mais il y aura Sinner en face.
Il est quand même, effectivement, on s'attend à ce que peut-être comme à Roland-Garros, on ait une finale à la fin entre Sinner et Alcaraz. Mais en tout cas, il a cette capacité qui n'était pas donnée à tout le monde de performer aussi bien à Roland-Garros qu'à Wimbledon, ce qu'on n'a pas forcément vu avec les trois joueurs du Big Three, pour si on écarte un peu Murray de l'équation, Federer, Djokovic, Nadal.
J'ai l'impression qu'Alcaraz joue mieux depuis que Sinner est revenu, puisqu'on a pensé que pendant l'absence de Sinner, il allait gagner beaucoup de tournois, ce qui n'a pas été spécialement le cas.
Hormis sur terre battue.
Voilà, et là, depuis que Sinner est revenu, il fait de très bons matchs, quoi.
Alors, il y en a un autre qui est en pleine forme aussi sur herbe, c'est Bublik, le Kazakh, qui a battu Medvedev en finale à Halle, en Allemagne. Deuxième victoire dans ce tournoi après sa victoire en 2023. Après un début de saison difficile, il était assez loin, il était 80 et quelques au début de la saison. Et là, il est vraiment en pleine forme. Tout le monde veut éviter Bublik, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Medvedev à la remise des prix. Pourvu que tu ne sois pas dans ma partie de tableau à Wimbledon et que tu sois dans celle de Sinner ou d'Alcaraz. Voilà.
Au spécialiste qui parle, ce n'est pas lui qui a éliminé Sinner ?
C'est lui qui a éliminé Sinner sur ce tournoi, absolument, au deuxième tour. Donc, un candidat très très sérieux, un joueur très fantasque, mais très difficile à prendre, particulièrement sur gazon. Bruno, un commentaire là-dessus ?
Non, pas spécialement. Non.
Alors, on va passer à la MotoGP. Où la famille Marquez continue de briller. C'est toujours Marc qui est devant, qui a remporté ce Grand Prix d'Italie devant son frère Alex. Bagnaia 4e, Quartararo 14e, Zarco a abandonné. Au championnat du monde, on a donc Marc Marquez avec 270 points, qui a 40 points d'avance sur son frère Alex. Bagnaia, qui est 3e au championnat du monde, a 110 points de retard sur Marc Marquez. Et donc, on voit que les frères Marquez ont fait le trou. Oui, Ricardo.
Ce Grand Prix, les deux, le Grand Prix Sprint et le Grand Prix GB,
samedi, ouais.
Voilà, les deux ont été fantastiques, je trouve, parce que en Sprint, Marc Marquez a raté son départ, donc il fallait remonter, donc c'était très intéressant à voir sa remontée. Et le Grand Prix le lendemain, il y a eu une bagarre entre les deux de la même équipe, Pecco Bagnaia et Marc Marquez, où ils se sont même touchés avec la moto. On espérait qu'une seule chose, c'est qu'il n'y ait pas une chute des deux et que ça soit le troisième qui gagne. Bon, après, le Grand Prix s'est déroulé d'une certaine façon que Pecco Bagnaia s'est fait 2-3 frayeurs et donc c'est comme ça qu'il a perdu sa troisième place. Mais c'est vrai qu'il y a les frères Marquez, une, on va dire, domination dans ce MotoGP qui est assez impressionnant. Pour Pecco, c'est pas comme l'année où il était contre Quartararo, qu'il avait rattrapé beaucoup de points sur Quartararo. Je pense que là, 100 points, je pense qu'il va essayer de gagner quelques grands prix d'ici la fin de l'année. Moi, je dis quelques, s'il en gagnait un, ça serait déjà bien.
Voilà, sachant que si je dis pas de bêtises, il a toujours pas gagné de grand prix cette saison.
ou un. Moi, il me semble qu'il en a gagné
alors, un. Voilà. Ouais. Mais effectivement, que ce soit Marc ou Alex Marquez, pour l'instant, c'est un des deux qui truste quasiment la victoire à chaque fois. Eh bien, on a terminé avec les brefs de cette semaine. Messieurs, on va pouvoir passer à vos coups de cœur. Bruno, on va commencer par vous, votre coup de cœur de cette semaine ou votre coup de griffe, comme vous voulez.
Non, mon coup de cœur, il va revenir à mon ancien collègue qui malheureusement nous a quitté il y a 2 ans, Philippe Blasco, puisque le tennis club d'Auteuil maintenant porte son nom. Donc je trouve que c'est un bel hommage qui lui est rendu par rapport à son investissement dans ce club et par rapport à son investissement dans le tennis, sans oublier son jumeau ou son compère ou son acolyte, donc Richard Pugibé qui est toujours présent et qui s'occupe très bien de ce club. Donc un grand coup de cœur à Philippe et puis à Richard. Voilà.
Et bien voilà, c'est fait effectivement. Le tennis club d'Auteuil s'appelle désormais Complexe Sportif Philippe Blasco et on aura tous plaisir à regarder ce panneau en arrivant. François Louis-Marie, votre coup de cœur, votre coup de griffe de cette semaine ?
Il fallait avoir un coup de cœur pour l'arbitre du match de rugby France-Angleterre. mais je vais m'arrêter sur le club d'Auckland, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils se sont ramassés des raclés, mais c'est un club amateur, ils ont beaucoup de courage.
On parle football, hein.
Sur l'Océanie, le Auckland FC, et ça sera une bonne chose que l'année prochaine, ils mettent en place la Pro League. Donc là, ce sont des clubs professionnels qui vont s'entraîner beaucoup plus sérieusement. Bien qu'il y ait 2 clubs néo-zélandais qui jouent dans le championnat professionnel d'Australie. Hein. Mais un coup de cœur pour cette équipe d'Auckland.
Ricardo, votre coup de cœur, votre coup de griffe de cette semaine ?
Pour moi, c'est un coup de cœur pour le MotoGP à Mugello, où Pecco Bagnaia et Marc Marquez avaient des tenues particulières inspiré de la Renaissance italienne, et j'ai trouvé ça très original et ça m'a plu.
Quand l'histoire se marie parfaitement avec le sport. Eh bien messieurs, merci à tous les trois d'avoir été mes invités ce soir, et on se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle semaine sportmidable.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportmidable sur Radio Rythme Bleu.